La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir celles et ceux qui ont des idées pour faire face à la crise. Et vous allez voir que des acteurs de la société prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. Alors on va parler mode homme aujourd'hui. Notre invitée, la patronne de De Fursac. Ils sont connus bien évidemment pour leur costume. Comment se réinvente-t-il, tiens, justement à l'ère du télétravail? On en parle jusqu'à 14h.
À la une, des vêtements fabriqués en France. Ils sont trois. Ils sont agriculteurs dans le Gers. Et ce sont les seuls à fabriquer des polos pour hommes 100% français grâce à la production de leur coton qui lui aussi est français. Ça s'appelle Jean-Phil et l'un des fondateurs sera avec nous d'ici quelques minutes.
Alors oui, il fabrique à la main des nœuds papillons, des cravates et des accessoires pour hommes et ce depuis 1920. Atelier Boivin, c'est la saga du jour dans La France bouge.
Trophée Europe 1, La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu Revive Clothing Lab, leur projet recycler des vêtements et leur donner une seconde vie, toujours dans le textile. On écoutera le pitch de sa fondatrice à 13h45.
Et demain au travail, on passera un coup de fil à Once for All, là-bas tout le monde décide. Il n'y a pas de manager et il paraît que ça se passe même très très bien. On vous en parle à 13h50.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, elle bouge encore cette France et j'espère que chaque jour avec Elisabeth, on arrive à vous le montrer en direct de 13h à 14h sur Europe 1. On va donc parler mode homme aujourd'hui, c'est en ce moment la Fashion Week homme. Alors elle est moins classe que d'habitude, elle est moins avec beaucoup de monde, ça c'est certain. Mais il y a moins de présentiel, mais on arrive encore là aussi à faire. Et on a voulu en savoir plus sur les innovations et la façon dont les acteurs de la mode homme traversent la crise avec notre patronne jusqu'à 14h.
Bonjour Elina Koussourna.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la PDG de Fursac. Je suis sûre que nos auditeurs s'en souviennent. Jusqu'en 2002, ça s'appelait Monsieur de Fursac. Vous aviez aussi un slogan hyper qu'on pouvait entendre. C'était, je crois, De Fursac, la griffe de l'homme. Ah, je m'en souviens avec une voix très chaude comme ça. Alors aujourd'hui, 60 points de vente, dont 20 boutiques. Nos habitudes changent complètement depuis un an, confinement, télétravail. Comment ça va?
Ça va bien. Ça va même très bien dans un contexte évidemment compliqué qui a été le même pour tout le monde. Je suis très contente tout d'abord de pouvoir dire que tous nos salariés, à la fois au siège et en boutique, vont bien et sont en bonne santé.
Ça, c'est, vous avez raison, pandémie, c'est une bonne chose, oui, en pleine pandémie.
Cette situation nous a aussi poussé à être agiles, à nous remettre en question, à innover, à repenser la façon dont on approche les clients et à imaginer, à se projeter dans un futur différent. Ça a confirmé aussi la direction qui prend De Fursac depuis déjà plusieurs saisons et plusieurs années, qui consiste à développer davantage son offre moins formelle, plus décontractée. Et ça nous a permis d'avoir une discussion différente avec nos clients. On a pu aussi, malgré le contexte, continuer notre expansion, notamment à l'international. On a ouvert 6 points de vente, dont 2 en dehors de la France, à Londres et à Luxembourg. Et qui dit ouverture des points de vente, dit recrutement, forcément des messages positifs. Et enfin, cette semaine, on a annoncé la nomination de Gauthier Borsarello en tête de la direction de la création de De Fursac. Et ce sont des moments extrêmement importants et excitants dans la vie de notre marque. Donc, je suis sûre qu'on va sortir grandi de cette crise.
C'est bien, vous nous donnez vraiment du baume au cœur quand on entend comme ça tant de projets et le fait que ça aille bien. Parce que pourtant, on pourrait se dire De Fursac, on les connaît tous dans l'imaginaire collectif, notamment grâce à vos costumes. Aujourd'hui, on en porte beaucoup moins, parce que bah, bien évidemment, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de mariage, on va beaucoup moins au travail, on est en télétravail. Du coup, le costume est fini, et parce que vous étiez un peu réinventé, ça vous permet de compenser?
Déjà, le costume n'est pas fini, évidemment.
Moi, je n'en ai pas vu mentir beaucoup, hein, aujourd'hui. Ces derniers temps, hein.
Exactement, mais voilà, vestes, des costumes dépareillés. Donc, évidemment, les costumes aujourd'hui, à la fois à cause d'une tendance de fond qui s'est poursuivie depuis
mais
plusieurs
ça s'est accéléré,
saisons,
finalement.
Qui s'est vraiment accélérée à cause de la pandémie et ses conséquences, c'est pour moi les pièces plus demandées, c'est sans surprise, les pièces plus souples, plus confortables, etc. Mais Quand on va aujourd'hui au magasin et on écoute nos équipes qui sont vraiment en contact du client, on sent aussi une envie assez forte que les hommes ont de mettre cette période derrière eux, de prendre soin d'eux. Donc je suis sûre que même les costumes vont bientôt revivre des très beaux jours. Pas forcément parce que les codes vestimentaires de l'entreprise l'imposent, mais plutôt par envie de se sentir bien au quotidien.
Mais pourtant, vous êtes obligé d'un peu de vous réinventer en ce moment, parce que vous n'allez pas nous dire que le costume, c'est ce qui se vend le plus.
Absolument pas.
C'est quoi ?
Ce qui se vend le plus, ce sont les pièces plus casuales, des pièces du quotidien, moins formelles, plus décontractées, des mailles, des pantalons,
des vestes,
exactement, des pulls, des pantalons, des chemises moins formelles. Et nous sommes très contents d'être ruptés.
C'est ça, vous êtes débordés par le succès, vous êtes en rupture de stock, je crois, sur certains produits, c'est ça ?
Sur certains produits, il y a des pulls sur lesquels nous sommes en rupture parce qu'on n'avait pas anticipé ces virages, évidemment. Il y a eu moins de chemises formelles.
Mais donc, ça veut dire quoi ? Une hausse de la demande sur tous ces produits un peu confortables. Si vous pouviez la chiffrer, on est sur une hausse de combien par rapport à une année classique ?
C'est difficile de chiffrer parce qu'on a eu toutes trois mois de fermeture absolue des magasins. Mais c'est une hausse importante dont notre mix prend des parts de marché. Et surtout, ça nous a permis vraiment cette période d'exposer davantage. Et ça a permis à des clients historiques qui venaient chez nous pour acheter des costumes, de découvrir cette partie du vestiaire qui était déjà là. Et évidemment, c'est la partie sur laquelle on accélère dans les saisons à venir.
Vous le disiez, ça fait quelques années que le costume est en baisse, que déjà vous étiez en train de repositionner l'offre de Fursac. On l'a entendu avec des pulls, avec des chemises, avec des pantalons plus casual, comme on dit. Du coup, vous allez accélérer. Cette crise vous oblige à accélérer et peut-être même à aller vers des collections spéciales télétravail ?
Pas forcément des collections spéciales télétravail, parce que ce qu'on croit profondément chez des Fursac, c'est que chacun doit prendre, on ne veut pas imposer une façon de s'habiller, chacun doit prendre chaque pièce, l'approprier et la porter comme il veut. Ce qui est sûr, c'est qu'on va concentrer notre collection de costumes, parce qu'encore une fois, on est assez sûr et que les gens vont recommencer à se marier, à faire des cérémonies, à porter des costumes.
Ça juste va parce même que sûrement s'accélérer une fois qu'on pourra ressortir.
C'est une pièce maîtresse quand même du vestiaire masculin, mais c'est sûr qu'on va compléter davantage notre offre plus casuelle.
Alors, c'est en ce moment là que vous êtes en train de préparer justement ces prochaines collections. Vous prenez en compte ces nouvelles demandes et cette nouvelle façon de vivre. Est-ce que cela signifie que vous êtes en train de réfléchir, par exemple, à des collections spéciales télétravail ?
C'est en ce moment même, là, on travaille, on finit presque la collection dès l'hiver prochain et on commence à travailler sur la collection été. Et forcément, on réfléchit davantage à nos coupes, à la souplesse de nos vêtements et au confort qu'on offre.
Donc les pulls, les mailles, tout ça, ça va revenir et vous allez vous réinventer aussi là-dedans.
Absolument, nous allons surtout renforcer notre offre.
Elina Koussourna, PDG de De Fursac, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on parle de la mode homme en ce vendredi. Vous l'avez entendu si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On porte moins de costumes, on cherche davantage de belles matières, on va dire plutôt du confort. En tout cas, c'est ce que nous dit notre témoin du jour, Elina Koussourna, qui est la patronne de De Fursac.
Et bonjour Johan De Witt.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On a adoré votre histoire avec Emmanuel en préparant l'émission. Vous êtes le cofondateur de Jeanfil. Et si on vous a invité dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que vous avez un parcours atypique. Vous êtes agriculteur. Les deux autres fondateurs de la marque sont aussi agriculteurs et viticulteurs. Vous vous êtes situé dans le Gers et vous produisez du coton. Avec ce coton, vous produisez des polos, ça paraît fou et pourtant c'est bien réel.
Exactement, donc nous aujourd'hui on est trois agriculteurs, trois associés et amis d'enfance et on voulait un projet un petit peu pour développer nos exploitations et surtout se mettre un nouveau challenge dans notre métier d'agriculteur. Et c'est vrai qu'on a vu l'explosion du Made in France au niveau local, etc. Et nous, on s'est dit, tiens, il faudrait vraiment qu'on arrive à pousser ce Made in France à son extrémité. C'est-à-dire, on est agriculteur, on sait faire pousser des choses. Et il faut vraiment qu'on arrive à faire pousser quelque chose qui nous permette de faire une fibre 100% française. Alors, vous savez aussi bien que moi qu'il y a le lin, il y a le chanvre. On en fait déjà pousser en France. Il y a la laine. C'est une chose qu'on sait aussi transformer en France. Mais voilà, on n'avait jamais poussé l'idée de faire pousser du coton en France.
J'imagine que si on ne le fait pas pousser, c'est que c'était très compliqué. Comment vous avez réussi à le faire ?
Eh bien, nous, déjà, on s'est renseignés pas mal, on a fait pas mal de recherches, etc. Parce que ça passe par de la recherche de variété, etc. Et puis surtout, il faut être un petit peu tête brûlée, en fait, pour
ouais, parce qu'on a dû vous prendre pour des fous au début.
Les a priori que les gens ont.
On a dû vous prendre pour des fous. Au début, quand vous avez dit, nous, on va faire du coton en France, on a dû vous regarder bizarrement. Alors,
Pour pas trop qu'on nous prenne pour des fous, on ne l'a pas dit au début. On l'a gardé pour nous, on s'est mis tous les trois, on l'a fait tous les trois dans notre coin. Et après, quand on a vu que ça marchait, on a commencé à communiquer dessus.
Alors, je crois que vous avez commencé les tests en 2016. Vous aviez planté, m'a-t-on dit en tout cas, 6 graines au fond du jardin. Et les premiers polos ont été finalisés en 2018 avec la récolte de 2017. C'est ça l'histoire
Exactement. Donc, pour être sûr que le coton pousse, dans un premier temps, on avait acheté des graines dans une jardinerie en ligne et on les a plantées dans le jardin chez mes parents. Et là, on a vu que ça pouvait fonctionner. Et donc, on a dit, en 2017, on passe sur une échelle un peu plus grande. On est passé sur 2 hectares. Donc, on a semé nos 2 hectares. De ces 2 hectares qui ont été une année particulière puisque c'était la vraie première année en champ. Hein. Et donc, du coup, on a réussi à sortir 100 kilos de fibres quand même qu'on a réussi à transformer derrière en polo. Voilà, donc on a sorti notre première collection de polos avec cette récolte 2017 en 2018.
Mais là, vous êtes en train de créer toute une filière, hein, Johan De Witt, avec la production du coton, la fabrication des polos. Je crois que vous êtes en croissance continue.
Bien sûr, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y avait quand même une filière coton qui existait déjà, puisqu'on est capable de transformer cette fibre en France. Il existe des filatures, il existe des tricoteurs, il existe des teintures, des confections. Il manquait vraiment que l'étape de la récolte et de l'égrenage, puisqu'il faut séparer quand on récolte la fibre de la graine. Mmh. C'est vraiment la seule étape qui manquait en France, c'est que nous, on a implanté sur le pays.
Alors, vous le disiez, nous, on est agriculteurs, on sait faire pousser des choses et semble-t-il, vous arrivez même à faire des miracles en la matière. Mais a priori, vous n'étiez pas designer. Qui dessine les polos? Qui imagine la collection?
Oui,
qui est par ailleurs
métier,
très, très belle.
Bien sûr, du coup, nous, on a pris un polo. En fait, on a voulu se baser un petit peu d'abord sur du standard parce que, comme vous le disiez, on est agriculteur, on n'était pas forcément des professionnels de la mode ou du moins du milieu textile. Et donc, on s'est fait aider aussi par des confections, par des amis qui travaillent dans ce milieu-là, qui nous ont dessiné les premiers polos. Et puis, c'est nous qui les avons validés en disant « ça nous plaît ». Donc, on va sur ça. Voilà. Et on a décidé donc de créer une gamme unique de polos, mais qu'on sur plusieurs coloris.
Johan De Witt, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces polos, pour l'instant, vous les vendez seulement sur Internet. Vous êtes dans une démarche totalement éco-responsable, donc vous ne comptez pas aller plus loin. C'est un peu ce qu'on a cru comprendre. Mais pourtant, il y a de la demande. Comment vous allez faire ?
Écoutez, de toute façon, nous aujourd'hui, on a quand même une superficie agricole qui finira par se limiter, puisqu'on n'a pas non plus des milliers d'hectares. Hein, donc... quand on arrivera à terme de notre production de coton, et le but du jeu c'est aussi de l'écouler derrière, et après on fera appel à des voisins agriculteurs déjà pour nous aider à produire ce coton. J'espère qu'on arrivera à ça un jour. Ça sera bon signe pour nous et bon signe pour eux, puisque le but du jeu c'est quand même de monter un écosystème local pour pouvoir, pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi de la dynamique. Mais après, on n'est pas là non plus pour surproduire. On veut pas surproduire du coton pour en stocker, pour en jeter. Voilà, nous aujourd'hui, on produit ce dont on a besoin. Notre demande, la demande envers nos polos évolue tous les jours. Mmh. Et donc nous, on fait évoluer notre production en fonction de la demande. Voilà, on surproduira pas pour avoir des stocks énormes et pour faire n'importe quoi en matière d'écologie aussi.
On ne le dit pas à tous les invités, mais c'est vraiment extraordinaire l'aventure que vous nous comptez, là, Johan De Witt. Elina Coursourna, vous êtes la PDG de De Fursac. Ça pourrait vous intéresser, vous, ces polos 100% français avec du bon coton bio.
Enfin, pas bio encore, pas certifié. Ouais, du bon coton français.
Voilà.
Bien sûr, exactement.
Déjà, je dois dire félicitations. Je suis extrêmement surprise. Je ne savais pas, comme vous, qu'on arrive à produire du coton en France. Et vous pouvez en être très fière. Absolument. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, c'est comme tout le monde, il y a cette question de durabilité qui se pose. Nous sommes dans un secteur par défaut polluant. Et évidemment, on aimerait et on examine toute possibilité de répatrier, si possible,
des productions en France.
On produit en Europe, la quasi-totalité de nos tissus viennent d'Italie. Mm-hmm. Et on produit en Europe de l'Est, on a également des fournisseurs au Portugal, même en Grèce. On en a et très peu en Chine. Mais évidemment, la production française est extrêmement intéressante.
Johan de Witt, tous les épisodes caniculaires que l'on connaît ces dernières années, ça ne vous dérange pas pour la production de coton ?
Alors au contraire, je vais vous dire qu'elle nous aide parce qu'on a, un a priori sur le coton, c'est qu'il consomme beaucoup d'eau. Or nous, déjà sur l'exploitation, on n'est pas équipé d'irrigation. Donc déjà, ça c'est un point. Et ensuite, on a des sols en argilo-calcaire qui conservent très très bien l'humidité. Donc on a des capacités de stockage d'eau dans les sols très importants. Et en fait, on n'a jamais eu besoin d'irriguer le coton. Et justement, on parle de ce coton qui consomme beaucoup d'eau parce que dans les pays où on le fait pousser en règle générale, ce sont des pays très secs. Et cette plante donc résiste très bien à la chaleur. Et pour pouvoir trouver le juste milieu, eux, ils sont obligés de l'irriguer. Nous, je pense qu'on a trouvé un bon juste milieu dans le sens où on a l'eau dans nos sols, on a des pluviométries régulières et on a aussi une chaleur suffisante. Voilà, je crois qu'on a atteint la bonne limite pour faire un coton propre.
Vous avez atteint ce dont on rêvait tous, un beau coton français. Ça s'appelle Jean-Phil. Merci à vous, Johan de Witt, d'être venu nous en parler en direct sur Europe 1.
Et on vous garde encore, Elina Koussourna, la patronne de Defursac. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On pousse la porte des magasins aujourd'hui sur Europe 1. On parle notamment mode homme avec notre invitée du jour, Elina Koussourna, qui est la patronne de Defursac depuis 13h avec nous dans ce studio en direct de la France bouge. Alors les soldes ont débuté mercredi. Comment ça marche ?
Les soldes ont débuté mercredi, mais avec des restrictions imposées par les protocoles sanitaires assez fortes et un couvre-feu à 18h. Donc, je ne veux pas vous dire que les soldes marchent extrêmement bien. Évidemment, ils font toujours un effet. Là aussi, il y a une tendance de fond. Les derniers temps, les périodes promotionnelles se sont multipliées. La France rejoint un peu les autres pays avec un calendrier moins figé. Je dirais, mais il y a eu quand même un flux même réduit au magasin et on attend vraiment les week-ends pour pouvoir juger.
Est-ce que malgré tout, le fait que vous soyez, vous, les magasins de vêtements, tout le temps en promotion, puisque comme vous le disiez, on est en train de se rapprocher des autres pays. Je pense qu'on peut penser à Londres, on peut penser à l'Espagne, on peut penser aux États-Unis, où là c'est le jour où on achète à prix fort qui est un jour étonnant. Comment vous arrivez à vous adapter à cela, puisqu'il faut tout le temps faire une opération de promotion ?
Déjà, j'estime que Defursac résiste pas mal par rapport à d'autres marques. D'ailleurs, même en période de soldes, on a une seule des marques et on ne suit pas cette notion de chaque semaine proposer une offre plus forte, une offre promotionnelle plus forte. Et c'est vraiment une question, je pense, tout d'abord des désirabilités des marques et après habituer aussi les clients. C'est à nous, c'est notre responsabilité de ne pas être en promotion tout le temps et de convaincre les clients de payer le prix juste qui est le prix full price.
Alors vous étiez en train de nous dire que les soldes c'est coup-ci coup-ça parce qu'il y a ce couvre-feu à 18h. Justement, comment vous vous adaptez à cette fermeture des magasins en ce moment à 18h ? Est-ce que ça signifie que vous ouvrez beaucoup plus tôt ? Est-ce que ça signifie que vous misez davantage sur la livraison ? Comment vous faites face à cela ?
Je dirais que déjà, les plus grands chocs, c'était au début de cette crise, le premier confinement,
où là,
évidemment, on s'est retrouvés tous assez dépourvus et en ne sachant pas quoi faire. Depuis, on a appris à construire différemment notre relation avec les clients. Nous, on a proposé des services, on a appelé des Defursacs à domicile, où il y a des clients qui accompagnent les achats en ligne, comme s'ils étaient au magasin.
Là, spécifiquement, vous avez des vendeurs qui vont chez les clients pour...
Non, mais qui sont au téléphone et qui les accompagnent comme s'ils étaient au magasin. Chez Defursac, il y a un accompagnement assez long, une visite assez longue au magasin et on essaye de recréer la même chose sur les sites e-commerce, là où nos clients historiques sont peut-être un peu moins habitués. Le couvre-feu à 18h, enfin, après 18h, historiquement, on fait... 25% ou plus de notre chiffre d'affaires.
C'est l'achat plaisir après 18h, c'est on sort du travail.
Exactement, on sort du travail.
Et on rentre dans le magasin et on se fait plaisir.
Exactement. Dans certains cas, on ouvre nos boutiques un peu plus tôt. Je vous avoue qu'on ne voit pas un flux extrême qu'il y a en magasin.
On ne va pas aller à 7h30 s'acheter un costume, de toute façon.
Exactement. Peut-être vous, Emmanuel.
Et on va voir clairement, on a été pénalisé par ce couvre-feu à 18h.
Alors, avec ces contraintes sanitaires, vous avez mis aussi en place le click and collect depuis un an. Là aussi, est-ce que vous avez dû tout réinventer ? Vous étiez prêt ? Vous aviez un site internet opérationnel pour réagir ?
On avait un site e-commerce. D'ailleurs, on n'arrive pas exactement aujourd'hui à avoir les click and collect. On a les call and collect. Donc, on doit quand même passer par cette relation, par notre magasin. Mais oui, notre site e-commerce était là. On sait que le client, on les a incités aussi via les magasins d'aller davantage sur les sites e-commerce et de faire le plus possible pour utiliser le stock qui est resté immobilisé dans nos magasins. Ça a marché. Encore une fois, c'est un peu difficile de les quantifier réellement, mais ça a motivé les équipes, ça a créé encore une autre relation, ça a montré aux clients qu'on essayait d'aller vers eux et du coup, c'était forcément positif.
Parlons un petit peu des accessoires pour les hommes. Est-ce que vous avez fait partie de ces marques qui se sont lancées sur les masques en tissu? Puisque à cette même place, il y a de cela quelques mois, le patron de Saint-James nous dit « Le masque va devenir un élément du vestiaire masculin et féminin. »
Ça va être dans la collection, ça va être dans le lookbook.
Et est-ce que c'est le cas vrai chez vous? Qu'on l'a vu dans plusieurs marques, allant du luxe jusqu'à des marques plus approchables au niveau prix. On ne s'est pas vraiment posé cette question parce qu'aussi on n'a pas anticipé la durée de cette crise et au début tout le monde était assez ferme sur le fait que le masque c'était une question médicale et on a choisi de la laisser aux spécialistes.
Donc rien, pas de masque de Fursac.
Du coup, pas de masque de Fursac. On verra si encore dans 3 ans on va porter le masque. Peut-être la réponse sera différente, mais on espère que non.
Est-ce que vous observez, vous, on parlait des accessoires, on parlait du masque, un retour à la cravate ou même au nœud papillon? Est-ce que les hommes continuent d'en porter?
Les hommes continuent d'en porter, mais je pense d'une façon différente qu'avant. Je pense que la cravate, le nœud papillon, enfin les accessoires, vont redevenir un achat de plaisir. Ça sera pas imposé, mais ça sera les hommes qui vont vouloir faire ça pour se sentir plus beau, plus soigné. Donc la typologie peut-être sera légèrement différente, mais on y croit.
Vous en demandez encore?
Absolument.
Alors parce que chaque jour dans la France bouge, on se pose un moment et on découvre l'histoire d'une entreprise française qui a traversé des crises, qui sont toujours là et qui font notre fierté. Aujourd'hui, on va visiter un atelier qui fabrique depuis 1920 des cravates et des nœuds papillons. Ça s'appelle l'atelier Boivin.
Et c'est Dora Nana qui nous retrace l'histoire.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Pousser la porte des ateliers Boivin, c'est entrer dans une institution. Installée au même endroit depuis 100 ans, au 97 rue Réaumur, en plein cœur de Paris, on est au dernier étage d'un immeuble Eiffel. Là, une dizaine d'artisans travaillent encore à la main toutes sortes de matières nobles, des soieries, des jacquards, tuiles. Plus de 6000 rouleaux sont archivés comme des œuvres d'art. Certaines pièces ont plus de 60 ans. Une collection de tissus d'exception acquise au cours de voyages dans toute l'Europe par les différents propriétaires, tous amoureux des belles matières. À commencer par son fondateur, le cravatier Jacques Voisin, jusqu'à François-Régis Laporte, co-directeur aujourd'hui des ateliers Boivin.
L'atelier a les plus jolis jacquards et les plus beaux tuiles et les madères, ainsi que des grenadines. C'est des étoffes très très rares qu'on est clairement les seuls à avoir sur Paris et qui sont 100% en soie. Et chez nous, on va retrouver des armures qui représentent des motifs art déco. C'est des tissus qui sont vraiment différents de ce qu'on peut trouver habituellement dans le commerce.
Un atelier qui travaille pour de grandes marques et qui réalise depuis toujours ce qu'on appelle la fabrication à façon.
C'est-à-dire qu'il travaille pour d'autres maisons sur les dessins de différents designers qui apportent des patronages. Et en fait, on manufacture pour ces marques-là. D'ailleurs, des journalistes disaient de nous qu'on était l'un des secrets les mieux gardés de Paris.
En 100 ans, l'atelier va passer entre les mains de différentes familles, les Grandjean d'abord dans les années 70, puis les Gillier, avant d'être racheté il y a 2 ans par 2 passionnés, Philippe Lalanne et François-Régis Laporte, qui ont à cœur de pérenniser un savoir-faire.
C'était une évidence, et puis surtout, il ne fallait absolument pas perdre le geste et la main. Ici, dans l'atelier, il n'y a pas du tout de système d'informatique ou de machine automatique. Les rouleaux sont sortis à la main, étendus sur des grandes tables de coupe. Tous les patronages sont retracés à la craie, puis coupés au ciseau de tailleur. Ensuite, c'est repassé à la main, piqué, retourné, noué. Toutes ces étapes sont 100% fait main. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu peur en se disant « Tiens, ça prend énormément de temps et ça coûte une fortune, etc. » Mais je vous assure que le travail Made in France n'est pas plus cher qu'un travail fait en Europe.
Ils travaillent encore aujourd'hui pour de grands noms de la mode, mais ont aussi développé leur propre marque et élargi l'offre à la femme.
On fabrique donc pour l'homme des cravates, bien entendu, mais qui ont des spécificités avec des pointes qui ont des formes d'étoiles. On fait des nœuds papillons, des nœuds twists, des fleurs de boutonnière, des ascotes, des ceintures de smoking. Et pour la femme, on fait des rubans de cou, des headbands, des lavalières, des barrettes, énormément de chouchous. On fait même des ceintures hobby pour la femme. Tout ça, ce sont vraiment des vraies nouveautés qu'on a développées au sein de l'atelier et qui remportent un franc succès.
6000 rouleaux de tissu à disposition, un savoir-faire qui leur permet une grande agilité, un travail en précommande qui évite les stocks et le gâchis. Boivin, c'est un savant mélange de tradition et de modernité à la française.
Une bien belle saga racontée une fois de plus d'une bien belle manière également par Dora Nana de l'équipe de La France Bouge, Elina Couzourna, la patronne de De Fursac. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le marché des accessoires pour une marque comme vous, comme De Fursac?
C'est un marché important, c'est un marché, ça dépend aussi de comment chaque acteur se positionne. Nous, aujourd'hui, on a un sortiment qui nous permet de compléter nos silhouettes et ceux qui cherchent les clients, notamment sur une silhouette pour une célébration, de pouvoir compléter le nœud papillon ou les boutons de manchette qui vont avec.
Et c'est vrai que, par exemple, on avait eu l'impression que les boutons de manchette étaient énormément revenus à la mode il y a une dizaine d'années. C'est fini. D'une certaine manière, le nœud papillon, pareil, comme le disait Elisabeth, il y a 4-5 ans, c'était redevenu très à la mode. C'est en train de s'arrêter à nouveau. Ça bouge beaucoup de ce côté-là.
Oui, mais il reste des ventes assez stables. Donc, ce n'est pas complètement fini et ça peut revenir comme vous l'avez vu. En tout cas, nous, on pense que c'est un marché très porteur, le marché des accessoires au sens large.
La pochette aussi, on porte des petites pochettes sur la veste. Ça représente quoi ce marché des accessoires chez vous, chez De Fursac?
Nous, on a entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur les accessoires. Donc, ça reste important.
Donc, c'est vraiment, vraiment recherché. Vous comptez vous mettre sur la mode femme?
Dans un futur peut-être lointain, comme je vous l'ai dit au début, on a quand même des grands axes de développement sur les marchés. Ce n'est pas un non ferme, parce qu'on pense qu'on a un positionnement qui est assez unique et qui pourrait être intéressant pour les femmes. Mais pour l'instant déjà, le développement de notre ligne casual, le développement international, le développement digital nous occupe pas mal.
Alors chaque jour dans La France Bouge, on aime essayer de soutenir les jeunes au niveau de l'emploi. C'est une opération qu'on a lancée mercredi à l'occasion d'une émission spéciale que l'on a fait. Et donc chaque jour comme ça, on va demander à nos invités si ils n'ont pas un petit coup de main à donner aux jeunes. Alors je crois qu'il y a très peu d'offres d'emploi en ce moment chez De Fursac, mais il y en a quand même.
Absolument.
Qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos jeunes ?
Et je ne crois pas qu'il y a vraiment très peu. Il y a déjà, on cherche pour nos équipes production un acheteur ou acheteuse de matière. Également, bientôt, nous allons chercher un graphiste. Et il y a toujours des offres d'emploi dans notre réseau, des vendeurs, adjoints ou responsables des boutiques.
Et donc là, on va sur le site disponible. De Fursac et on le trouve sur votre site.
Oui. Absolument, sur les sites, sur LinkedIn. Vous pouvez trouver tout ça.
Elina Couzourna, vous êtes la PDG de De Fursac. Vous restez avec nous encore jusqu'à 14h parce que maintenant, vous allez mettre une casquette, pas une casquette de Fursac, une casquette de coach, parce que vous allez écouter le projet d'un entrepreneur et lui poser quelques questions.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est très heureux, comme chaque jour avec Elisabeth, d'être avec vous en direct dans La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Et notamment pour cette partie, les trophées Europe 1, La France Bouge. Chaque jour, elle ou ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier avec, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI qui est déjà à l'écoute. Et puis également notre grand témoin du jour aujourd'hui, Elina Couzourna, qui est la patronne de De Fursac.
Et ça tombe bien parce qu'on va parler mode encore avec vous, Yolande Classen. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 54 ans et vous êtes la fondatrice de Revive Clothing Lab. Vous donnez
un très bel accent, Elisabeth.
Une nouvelle vie. Vous voulez que je le fasse avec l'accent ?
Non, mais en plus, je sais que vous êtes totalement bilingue et tout, je me moque pas. Hein.
Vous donnez une nouvelle vie de vêtements à des vêtements. Vous venez de Lille. Oui. Vous allez nous raconter, vous nous avez apporté, donc vous allez pouvoir nous les décrire. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Merci. Bonjour à tous. Revive Clothing Lab est un concept ultra local. Nous proposons des vêtements uniques et responsables pour les femmes qui veulent avoir du style et aussi mettre leur valeur au cœur de leur style, leur conviction écologique. Chaque vêtement chez Revive est fait à partir d'un vêtement qui existe déjà sur la Terre. Donc on a une démarche vraiment d'économie circulaire et aussi anti-gaspillage. Trois volets à notre projet. Le premier, c'est les collections Revive, qui sont les pièces uniques que nous faisons à partir des invendus de commerce à proximité. Nous rachetons les invendus des commerces à Lille, nous les réinventons et nous transformons dans les petits ateliers de couture et d'insertion qui sont dans notre région. Ensuite, en Levant, on a un corner aujourd'hui au Printemps de Lille et aussi bientôt, très bientôt, un e-shop. Le deuxième volet de notre concept, c'est un service de transformation pour les particuliers qui veulent mettre au goût du jour leurs vêtements qui dorment dans leur placard. Apparemment, on ne porte qu'un tiers de ce qu'on possède, donc il y a quoi faire. Et aussi, le troisième volet, c'est pour vous, les entreprises. Ce qu'on veut faire, c'est faire des capsules et nous collaborons avec des entreprises pour faire des capsules anti-gaspillage.
Là, je devrais vous arrêter puisque je suis le méchant de la bande. Mais je voulais quand même avoir le troisième point. Je voulais pas vous couper avant le troisième point parce que c'était tout ça très réussi. Avec vous aussi, un très joli accent par ailleurs.
Oui, très joli accent. Yolande, je vous présente directement Nathalie Carré parce que Nathalie, elle est chargée de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a étudié votre dossier, votre projet et on va l'écouter. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Non, moi,
bonjour Elisabeth.
Voilà. Bonjour.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Yolande. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous avez un bon accent anglais aussi. Alors allez-y, Nathalie. Quelles sont les forces et les faiblesses de Revive Clothing Lab?
Alors les forces d'abord, effectivement, votre solution c'est la troisième voie idéale. Aujourd'hui, soit on donne à des amis ou dans un relais, soit on fait des chiffons. Et du coup, on garde quand même toujours des choses qu'on ne mettra plus, mais qu'on ne veut ni jeter ni donner.
On en a tous, hein, on peut se le dire.
Ah, on en a tous.
Je ne suis pas allée voir votre placard, mais bon.
Non, mais il y en a. Deuxièmement, les formules que vous proposez pour recycler vos vêtements, enfin nos vêtements, donc de 45 euros pour une jupe à 95 euros pour un manteau, c'est très abordable. Et puis votre offre pour les commerces dont vous venez de parler, dont certains commencent effectivement à aller vers le recycling, enfin les entreprises vers le recycling ou l'upcycling.
Upcycling, on rappelle ce que c'est, c'est-à-dire qu'on va prendre des vêtements et on va, enfin, c'est là en l'occurrence on parle de vêtements, et on va les rendre encore plus beaux, on va leur redonner une seconde vie.
Une seconde vie. Alors le point amélioré, votre site il est joli, il est cohérent avec les valeurs que vous incarnez, mais il manque d'informations claires sur le comment faire. Ce que vous venez de dire était très clair, il y a trois voies, mais on ne le retrouve pas sur le site. Faites une partie un peu présentielle, une partie distancielle, et puis sur le présentiel, on comprend qu'on doit trier, prendre rendez-vous avec vous, etc. Mais en ligne, on ne sait pas encore comment on fait. Et puis, une suggestion. On sent un côté, on trie, on déstocke, on respire, on fait du bien à la planète quand on lit votre site. Du coup, peut-être que vous avez intérêt de vous appuyer sur tous les sites de et les blogueuses de rangement version Marie Kondo pour booster votre communication, car finalement, c'est le même univers. On fait du tri, on fait du bien à la planète.
Et on fait du rangement pour soi.
Et on fait du rangement.
Et ça, c'est important. C'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Yolande sur cet aspect de beaucoup plus de clarté, mais aussi, aller, pourquoi pas, solliciter des blogueuses, des influenceuses qui pourraient aussi vous donner un coup de main.
Bien sûr, absolument. Mais notre priorité jusqu'à maintenant, c'était vraiment le développement de l'écosystème pour prendre l'action et concrètement livrer un concept physique. Et on sait que notre digital, ça, c'est un élément qui est notre cheval de bataille de 2021.
Alors moi, je suis allée regarder le site et tout ça. Je n'ai rien vu pour moi. Je n'ai pas vu pour
mais
les
justement,
hommes.
Justement, on commençait avec les femmes d'abord. Mais justement, on a beaucoup d'expérience dans notre équipe autour de l'homme. Donc ça serait une deuxième approche, mais on veut vraiment maîtriser la femme pour commencer et puis après avec plaisir pour l'homme. Alors mais il y a des hommes qui achètent nos produits des fois.
Ah bah oui, mais là, pour moi, il n'y avait pas grand-chose en tout cas.
Par exemple, on utilise beaucoup des chemises d'hommes pour faire les
petites chemises argentées, je vous vois bien avec Emmanuel.
Pour mes soirées.
Pour vos soirées. Je me tourne vers notre témoin du jour, Elina Koussourna. Ça tombe bien, vous êtes dans la mode, vous êtes la PDG de Defursac. Quel regard portez-vous sur cette démarche, qui fait du bien à la planète et pour nos placards de cette marque Revive Clothing Lab?
Je peux que la saluer, c'est une démarche essentielle. Notamment, je prends les volets qui me concernent le plus, la partie invendue. Nous aussi,
il y en a beaucoup chez vous ?
Il n'y a pas beaucoup, il y en a. Ils sont juste inévitables. Ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment d'essayer déjà de leur donner une deuxième vie via notre réseau de magasins d'usines. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'était de faire des dons. On a travaillé notamment avec les apprentis d'Auteuil, avec la Cravate Solidaire, qui est un organisme qui essaye de donner des tenues à des gens qui essayent d'intégrer la vie professionnelle, mais des initiatives de tel type, évidemment, sont extrêmement intéressantes. Et si j'ai un conseil en plus, si vous allez vers l'homme, c'est de vous faire connaître plus auprès des entreprises, de définir jusqu'où vous pouvez faire et quelle volumétrie vous pouvez absorber. Absolument. Et de venir frapper nos portes pour de collaboration.
Avec plaisir. Oui, merci. Merci pour ce feedback. Oui, par exemple, ce produit-là,
qui est une chemise blanche.
Rapprochez-vous de votre micro, comme ça on va bien.
Une chemise blanche.
Par exemple, une chemise blanche d'homme, assez voilà, anodine, simple, mais on a fait quelque chose de merveilleux.
Elle
et tout s'exprime dans ses manches. Vous voyez,
donc c'est important de préciser que ce sont des ateliers aussi de réinsertion qui fabriquent ces vêtements parce que vous faites du bien
pas
aussi.
Pas tous nos vêtements parce que certaines transformations sont un peu complexes, mais beaucoup d'accessoires, accessorisation. Mais absolument, on tient vraiment d'investir dans le territoire.
Ça s'appelle The Revive Clothing Lab. Merci à vous, Yolande Classine, d'être venue nous en parler. Donnez-nous de vos nouvelles, parce que je suis sûre que ça a plein d'avenir, cette jolie marque. Merci à vous.
Et on vous dit à lundi pour Nathalie Carré. Si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou patron du jour, eh bien, c'est très simple. Vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Et si là, vous nous écoutez, si vous êtes patron, si vous avez des offres d'emploi, notamment pour les jeunes, c'est la même adresse. Allez-y, donnez-nous et là aussi, on les relaiera du côté de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
C'est la dernière partie de votre émission La France Bouge, toujours en direct sur Europe 1 et nous sommes toujours avec Elina Couzournal, la patronne de Defursac.
Et chaque jour dans La France Bouge, nous passons un coup de fil à un patron d'entreprise ou à un DRH qui nous raconte comment ça, il s'adapte ou elle s'adapte à la crise afin d'améliorer le bien-être de ses salariés, comme vous, Renaud Sornin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Once for All. Ça existe depuis 10 ans, votre entreprise. Vous simplifiez tout simplement la vie des entreprises de manière administrative. Hein. Vous êtes en croissance constante. Vous vous occupez de leurs documents et Dieu sait s'il y en a. Sans salariés, vous êtes à Lyon et chez vous, on partage les valeurs de l'entreprise, l'argent et le pouvoir. Tout est parti de votre expérience personnelle. Vous veniez d'une entreprise très, très hiérarchisée. Vous avez connu un burn-out et là, vous vous êtes dit, je vais me lancer dans quelque chose de radicalement différent. Vous avez mis quoi en place dans votre entreprise ?
Bah déjà, on a essayé, on avait l'envie. Alors au début, je l'ai fait sans le savoir. Et puis petit à petit, j'ai lu un livre magique qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Et puis on a voulu essayer de partager le pouvoir. Et la première chose, on a compris que c'était la parole qui était le plus important, la parole libérée. Et donc, du coup, on a créé ce qu'on appelle une réunion mensuelle qui s'appelle la SSPP pour Strategic Sushi Pizza Party. C'est une réunion, c'est un rite, c'est un peu notre grand-messe, dans lequel chacun peut s'exprimer 3 minutes pour ce qu'il veut. Voilà.
Et mais c'est veut. Quoi ce qu'il veut ? C'est en rapport avec le planning, avec les objectifs non atteints ou il peut parler de sa grand-mère ?
Eh bien, justement, un peu de tout et essentiellement de ce qu'il souhaite. Alors, d'abord, ça a commencé par libérer la parole aussi sur le professionnel, mais aussi le privé. Je me souviens de Mathilde qui nous a annoncé que tout le monde savait qu'elle avait du mal à avoir un bébé. Puis elle nous a annoncé qu'elle avait un bébé. Puis elle a dit « Ouh là là, je ne l'ai pas encore dit à mes parents ». Vous voyez, c'était magique. Il y a Kaina qui nous a demandé l'autorisation de porter le voile. Et depuis, aujourd'hui, les femmes qui souhaitent se voiler le font dans le respect de leur liberté et ça se passe très bien. Donc, on a eu des moments magiques dans cette. Voilà. Puis après, on a appris à travailler avec des outils modernes pour que les gens qui puissent. Qui sont pas super à l'aise pour parler devant 30 ou 40 ou 100 personnes puissent le faire par l'électronique. On a même eu une lettre anonyme à un moment parce que justement. Il y avait des gens dans l'entreprise qui pensaient, qui nous avaient écrit « Ouais, Renaud, tu passes à la télé, tu parles dans la radio, mais la boîte, c'est pas du tout ce que tu en dis. » Et du coup, on a eu un dialogue, justement, vous voyez. Et on est revenu et on essaie d'avoir une parole impeccable. Mmh. Et puis, depuis 6 ans, on mesure, on fait une enquête par un tiers de confiance, l'entreprise sans CID qui nous accompagne, pour faire une enquête collaborateur. Et chaque année, on fait cette enquête. On découvre les résultats avec nos collaborateurs et on identifie des points. Ça fait 6-7 ans qu'on travaille là-dessus.
Et quand Elisabeth disait aussi que, pardon, je vous coupe, mais quand Elisabeth disait que vous partagez aussi l'argent, je crois qu'il y a un système de cagnotte. Il y a 30 000 euros, je crois, par exemple, que vous mettez comme ça à disposition et c'est un salarié qui décide de ce que vous allez en faire. Mais il doit prendre 5 avis dans l'entreprise. Il doit être challengé par 5 collègues.
Voilà, exactement. Alors, d'abord, on a dit, vous pouvez, pour stimuler l'autonomie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bien-être allait avec autonomie. Et autonomie avec compétence. Donc c'est ça qui est c'est l'équation qui est importante. Et donc pour donner les gens la capacité d'être autonomes, on leur donne de l'argent. Mais ça suffit absolument pas. En fait, c'est ça qui est. C'est qu'une fois qu'on a donné la liberté de prendre de l'argent, ça responsabilise. Et donc, les gens ont un peu peur. Et donc, on leur dit, bah, va dialoguer avec d'autres personnes dans l'entreprise. Mmh. Écoute-les. Va pas chercher des autorisations. Va chercher des avis.
C'est ça. Donc, vous cherchez des avis, vous dialoguez et vous favorisez l'autonomie chez Once for All. C'était Demain au travail avec vous, Renaud Sornin. Et ça nous fait du bien aussi. Merci à vous, Lina Koussourna. C'est la fin de notre émission, de votre émission. Vous êtes la PDG de Fursac. Merci à vous, Emmanuel. Mmh. On va se retrouver, nous, lundi à 13h. On va parler de quoi lundi?
On va parler de l'attractivité de la France et notre invité sera le secrétaire d'État en charge de cette question, Franck Riester.
Alors à lundi, dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.